Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'After. C'est la 12e nuit de l'After qui commence en direct des États-Unis, en direct de notre studio new-yorkais avec l'équipe de France. Au programme tout à l'heure, évidemment, l'After est en direct sur RMC, l'After est en direct sur la chaîne YouTube de l'After Foot jusqu'à 5h du matin avec un programme de fou. Je vais le détailler dans quelques instants. L'After, première radio de France le soir avec Florent Gautreau qui est là.
Salut, salut Florent. Salut Gilbert, salut à tous.
Et avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Alors l'événement, c'est bien sûr le match France-Irak tout à l'heure à 23h. On attend les compos d'équipe. On va aller sur place dans quelques secondes. Retrouver Jean-Louis Tour. On débriefera également la victoire de l'Argentine face à l'Autriche il y a quelques instants. 2-0 pour les Argentins. Donc France-Irak à 23h, mais aussi Norvège-Sénégal cette nuit à 2h du matin sur RMC dans la nuit de l'After. Et puis demain matin très tôt, l'Algérie affrontera la Jordanie. Ce sera à 5h demain matin. Donc si vous voulez suivre tous les matchs, vous le savez, sur RMC, vous avez tous les matchs, tous les reporters dans toutes les villes de la Coupe du Monde. Nous sommes partout. Le 32-16 est ouvert. Le numéro WhatsApp de l'After est également dispo, 0612 424 424. Tout de suite, on part à Philadelphie, à quelques centaines de kilomètres, pas très loin de New York, où Jean-Louis Tour est sur place. Avant de parler compo, Jean-Louis, il faut qu'on parle météo, parce qu'il y a des incertitudes sur le match, parce que les Américains ne rigolent pas avec les orages.
Non, exactement. En fait, quand les portes auraient dû s'ouvrir, donc 3 heures avant le coup d'envoi du match, il y a eu donc une alerte d'une tempête qui allait arriver. Donc effectivement, il a plu d'un coup. Nous, on nous a expliqué, on était déjà en tribune de presse, qu'il fallait rentrer, qu'il fallait se mettre à l'abri. Et ils ont décalé l'ouverture des portes d'une demi-heure. Depuis, tout ça s'est calmé. Là, les portes sont ouvertes. Il y a des spectateurs qui sont installés dans les tribunes. Mais on nous dit en interne, attention, il y a une nouvelle menace entre, que je me trompe pas avec les heures, entre donc 16h30 et 18h. Donc une demi-heure avant le coup d'envoi de la rencontre. Donc faut quand même encore rester prudent.
Tu parles en heure américaine, toi.
En heure américaine, voilà. Donc une demi-heure avant le coup d'envoi, donc 22h30 en France, ça pourrait donc se reproduire, et ce protocole qui pourrait à ce moment-là décaler éventuellement le coup d'envoi du match. Alors à l'heure actuelle, le ciel est couvert, ça va. On est vraiment dans un avant-match classique avec la sono, avec le public, avec les différentes coupelles qui sont mises pour les échauffements. Donc il y a rien de particulier à signaler.
Oui, il faut préciser que le stade à Philadelphie est un stade ouvert. Il y a pas de, on n'est pas protégé, quoi. Donc ça veut dire que s'il pleut, c'est dans ta tronche, Jean-Louis.
Quoi, tout le monde se
ouais,
dit.
Non. Voilà. Alors nous on est protégé. Il y a quand même une partie.
Les journalistes sont avantagés.
On va dire il y a 25% du stade, c'est-à-dire les 10 rangs du haut, peut-être les 15 rangs du haut des deux tribunes latérales qui sont abrités, mais ça fait peu. Et t'as raison, la plupart des gens seront trempés pendant la rencontre.
Bon, c'est la canicule en France, mais ici, aujourd'hui, à New York, à Philadelphie, sur la côte est américaine, c'est couvert et pluvieux. Donc, voilà, nous, on est au frais. Bon, aujourd'hui, tu nous tiens au courant dès qu'il se passe quelque chose, et puis là, bon, les compos d'équipe devraient quand même tomber dans l'heure qui vient, là, normalement.
Ouais, bien sûr, ça va tomber d'ici, je pense, une demi-heure, 45 minutes.
Très bien, donc, bah,
on les avait déjà, les compos.
Oui, là, c'est
oui,
confirmé.
La compo des Bleus, ça a bien bossé, il nous les a filés depuis 48 heures au moins.
Non, mais on attend la compo de l'Irak.
Bien sûr.
Ah oui, pardon, Flo.
Même si la star Hussein sera le titulaire.
Normalement.
Jean-Louis, rappelle la compo quand même, avant de partir.
La compo
avant
des Bleus.
En disant ça y est, la compo est tombée.
Pour ceux qui n'ont pas écouté l'After depuis 48 heures.
Alors la compo des Bleus, ça va être Mike Maignan dans les buts. Il y a donc 3 changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée face au Sénégal. Jules Koundé à droite, la défense centrale Saliba ou Upamecano. À gauche, Lucas Digne prendra la place de Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Rabiot et Manu Koné à la place d'Aurélien Tchouaméni. Barcola à gauche à la place de Désiré Doué. Et on garde le trio avec Dembélé qui débutera à droite cette fois, et Olise derrière Kylian Mbappé.
À tout à l'heure, Jean-Louis.
En
espérant que tout démarre à l'heure, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous mette France-Irak en même temps que Sénégal-Norvège. En plus, ça retarde le coup d'envoi. Déjà 23h, c'est tard. Donc, les matchs en pleine nuit, en pleine semaine, c'est quand même pas génial pour suivre l'équipe de France.
C'est la météo. Tu peux chouiner autant que tu veux, on ne peut rien y faire. Hein.
C'est vrai. Parce que, non, mais c'est surtout.
On va s'adapter.
C'est surtout les Américains, ils ont c'est dingue, cette crainte absolue des orages, en fait. J'ai l'impression que la vie s'arrête quand il y a un orage.
Enfin oui, en explication, c'est quoi? Ils ont peur. Enfin, orage, ça veut dire l'éclair, quoi.
La foudre, c'est la foudre.
Non, je pense qu'ils ont peur d'un accident, tout simplement, oui. Parce qu'il n'y a pas que les joueurs, il y a quand même les spectateurs. Je pense que c'est un peu lié à ça.
Enfin, en France, t'as un orage, on n'arrête pas les matchs. Peut-être qu'il faudrait, tu me diras.
Je... Alors là, je t'avoue, je suis pas calé sur l'orage, la foudre.
C'est ici, t'as des.
Il me manque un
truc. Moi, ça s'appelle les chercheurs de. Tu sais, ceux qui sont des chasseurs de.
Chasseurs d'orage?
D'orage, pas d'orage, mais de typhon, je ne sais quoi. Donc il y a des spécialités, parce que c'est plus violent, j'imagine, c'est un petit peu plus
hard. Bon. La météo, on croise les doigts. Maintenant, l'Argentine. Parce que là, quand même, on a un moment d'histoire. Ça y est, Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire en Coupe du Monde. Il a dépassé Klose. Désormais, il était à égalité avec Klose après son triplé du premier match. Là, il a désormais 18 buts à la Coupe du Monde. Il est le premier. Et puis alors, ça tombe pile 40 ans après... Le match Argentine-Angleterre, la fameuse main de Dieu, c'était il y a pile 40 ans, rappelez-vous ce match. Donc voilà, l'Argentine est en feu et Georges Quirino va nous rejoindre d'ailleurs dans quelques instants pour nous en parler. Il est là, Georges. Bonsoir, Georges.
Salut les amis, bonsoir à tous.
Alors avant que tu donnes ton avis et que tu nous expliques ce qui se dit en Argentine, Daniel, Florent, 5 buts argentins, 5 buts de Messi. Et puis alors, t'as l'impression qu'en fait, tout le monde le cherche. Si t'as d'autres joueurs débarqués, on attend que Messi arrive, il faut lui donner le ballon.
Écoute, ça fonctionne. Ouais. Moi, il n'y a rien qui me plaît plus que ce que je vois là depuis le début de la Coupe du Monde. Il n'y a rien qui m'a plus intéressé que Messi et l'Argentine depuis le début de cette Coupe du Monde. Parce que j'aime cette équipe, j'aime comment elle est construite, j'aime comment elle joue. Sans avoir l'air de faire un énorme match, ils ont largement dominé l'Autriche, qui n'a même pas 0,5 d'XG dans ce match, alors qu'elle est dirigée par Rangnick et que... Moi, le principe de jeu de Rangnick, c'est pressing contre pressing, c'est de mettre de l'intensité. Visiblement, ils n'y arrivent pas. Ils ont été... en dessous dans tous les compartiments. L'Argentine se retrouve avec un nombre d'occasions assez important par rapport aux efforts qu'ils donnent l'impression de fournir. Après, moi, qu'ils cherchent Messi, qu'ils ne le cherchent pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il a mis 5 buts, il est en régalade complet à chaque fois qu'il touche le ballon. Son rôle, on le connaît. Effectivement, il y a à peine 3 replacements dans le match, mais en fait, cette équipe, elle respire, c'est la quintessence du foot de sélection, de ce qu'il faut faire dans une grande compétition. À quel moment tu cours, à quel moment tu te donnes vraiment la gestion du match, la star qui te fait gagner le match, les autres qui forment un bloc collectif très très puissant. En plus, c'est une équipe qui est assez technique, enfin assez même très technique, pardon, je me suis trompé de mot, très technique. Toutes leurs verticalisations font très mal. Moi, j'adore cette équipe, je la trouve excellente. Pour moi, c'est la meilleure depuis le début de la compète dans ce que j'ai vu.
Florent.
Individuellement, en fait, ce qui est fabuleux, c'est que Messi fait pas un énorme match si tu regardes vraiment toutes ses stats et toutes ses interventions. Mais effectivement, le fait que offensivement on le cherche immédiatement, qu'il ait quand même aussi le sens et du jeu, parce qu'il se retrouve dans les trois quarts des tirs cadrés de son équipe, c'est lui qui en est à la conclusion. Donc, il est évident que d'abord, quand même, un, il est en forme malgré tout. Deux, son pied et tout, c'est un génie. Il est très en forme physiquement, mais néanmoins, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu parfois, il a même provoqué un contre autrichien parce qu'il a fait une mauvaise passe, un mauvais contrôle, un truc. Mais c'est pas grave, il fait la diff, il est le patron. La seule chose pour revenir sur ce que tu dis, puisque c'est un peu notre débat depuis le début de la compète, et on est d'accord là-dessus pour dire que un foot de sélection sur 8 matchs, tu construis une équipe, pourquoi pas autour d'un joueur, c'est plus simple quand tu n'as que un joueur, que une star, parce que parfois t'en as un peu plusieurs. La preuve chez nous, on a des débats, tu vois, qui demandent la répartition des rôles. Là au moins, ouais, mais c'est plus simple parce que
c'est la clarté qui rend le foot plus simple.
C'est plus simple, et c'est vrai qu'autour il a. Alors on l'a déjà dit, il a beaucoup de soldats, il a beaucoup de joueurs effectivement à son service. Et sur la dernière occasion, enfin sur le dernier but, on a vu effectivement, c'était absolument génial. À la fois lui sur son physique et sa hargne pour aller terminer cette action, mais à la fois effectivement les autres qui le cherchent systématiquement pour aller lui donner le ballon. Au passage, il a mis une passe qui aurait pu être décisive, magnifique pour
Alvarez. Alvarez rate, c'est lui qui termine.
Premier but, tu as Lautaro Martinez totalement débarqué. Et on peut lui donner à Lautaro Martinez. Et là, tu vois clairement qu'ils attendent que Messi arrive.